Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Alors, pour ceux qui ont vu peut-être Louis-Philippe se préparer à la dernière seconde, il est avec nous, Louis-Philippe, salut.
Salut Antoine.
Gonneau qui est avec nous aussi.
Bonjour.
Pour nous parler de voitures anciennes cette semaine, comme ça sera l'habitude désormais. Alors, pour ceux qui nous regardent en direct, vous aurez remarqué que Louis-Philippe a décidé d'être marketing, M-A-R-K-K-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- sur la table principale. On t'en remercie.
Ben oui.
Et des fois, ça peut être un livre de référence intéressant si on a un oubli.
Ben oui, c'est hein? ça. On peut.
Ça peut être pratique. Alors,
tout est dedans.
Il se peut qu'on ne le consulte pas, mais il se peut que à la dernière seconde, ben, on le ramasse pour aller chercher une donnée qu'on cherchait pour compléter une phrase. On verra. Cela étant dit, on va diviser, bien sûr, l'émission en quelques blocs. On commence par quelques actualités. Chronique rétro avec Hugues pour parler de la Thunderbird des années 80.
Yes.
Vous savez, le modèle très rond avec plusieurs versions de marques de vêtements, entre autres. C'était un peu particulier. On va faire le bilan des constructeurs cette semaine. On l'attribue à Genesis.
Pas le band, mais bien la marque.
Exactement. Parce que contrairement au band, la marque existe toujours, n'est-ce pas? Et ben, on va terminer avec nos essais de la semaine, que sont le Lexus TX et le Dodge Hornet. J'aime beaucoup dire le Hornet. Oui, le Hornet. On commence, actualité, qui en est une, mais qui en même temps a le complément de pouvoir être agrémenté par Louis-Philippe, qui est allé voir et découvrir ce véhicule-là. C'est le nouveau Equinox 2025 qui a été présenté cette semaine. Et je ne parle pas, bien sûr, de la version électrique
ben non.
Mais de la version...
À gaz
ou à essence, ou le véhicule qui rivalise avec les CR-V RAV4, CX-5, nommez-les tous.
Ben oui.
Alors, t'as aperçu ça. C'est un véhicule différent du véhicule électrique, ça n'a rien à voir. Là.
Ça n'a rien à voir, non. On lui a donné un look, tu sais que le 2024, cette génération-là, a un look plutôt arrondi. On lui a donné un look plus camion, comme on fait chez GM, mais un petit peu partout également.
Ouais.
Tu sais, la gamme là, chez Chevrolet, c'est gros. Là. Trax, Trailblazer, Equinox, Blazer. Ben, beaucoup de monde se trompe entre le Blazer et l'Equinox, pense que l'un est plus gros que l'autre. Par exemple, que le Blazer est plus petit et l'Equinox est plus gros, et c'est l'inverse. Ensuite, Traverse, bon, on nommera pas les Taos Suburban, c'est une autre classe, mais...
Mais t'es quand même nommé, là. Mais...
on les nommera pas, on les nommera pareil. Mais ouais. C'est de tout pour tout le monde, pour essayer d'aller chercher tous les budgets. Le Equinox est de retour, comme je disais, un petit peu plus large, 2,5 pouces, là, qu'on dit chez Chevrolet. Un véhicule qui... est offert en trois versions maintenant, LT, RS et Active. Active, c'est la nouvelle version avec des éléments axés un petit peu plus sur l'aventure, entre guillemets. Ouais, on parle d'esthétique, là, strictement. On a enlevé la déclinaison LS cette année, qui n'est pas là. Fait qu'on commence à LT.
Comme font les concurrents, c'est-à-dire que les versions de base sont retirées du marché parce qu'on veut niveler un peu vers le haut. En même temps, dans ce marché-là, c'est un marché de masse. Et Chevrolet, contre toute attente, a décidé d'amener un véhicule d'entrée de gamme avec la version LT, mais disponible en deux roues motrices.
Ben oui, c'est la seule qui est disponible au Canada en deux roues motrices. Les RS et Active sont avec le rouage intégral.
Ouais.
On a gardé le moteur, le 4 cylindres 1.5 litres.
C'est bien d'avoir
turbo.
Un moteur, ça aide ça.
On a gardé le même moteur, ouais, j'espère. Mais, par contre, on a changé les transmissions. La transmission à 6 vitesses qui débarque. Les modèles à roues motrices avant vont être avec une CVT. Et les modèles à rouage intégral vont être avec une nouvelle 8 vitesses.
Alors ça, c'est une CVT. J'ai pas l'impression qu'on va en vendre énormément. En fait, chez nous au Canada, ça prend des véhicules peut-être un peu plus accessible. Alors, ça sera peut-être la formule, mais évidemment qu'on va vendre davantage de 4 roues motrices.
Ouais.
Mais à la vue de ce produit-là, ça me donne l'impression que Chevrolet va être mieux armé pour rivaliser avec les meneurs du segment. Il y en a plusieurs meneurs, là. Le RAV4 qui est bon premier, CR-V
deuxième. C'est très compétitif, là.
Mais après ça, tu sais, au même niveau, tu as du CX-5, du Nissan Rogue, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Il y a énormément de compétition.
Ouais.
Ford Escape, Ford Bronco Sport, ça rentre aussi là-dedans. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, la première chose que je me suis dit en voyant ce Equinox-là, j'ai hâte de voir le GMC Terrain.
Ouais.
Parce que lui, il va être encore un petit peu plus musclé au niveau du look.
Parce que c'est GMC. Il
va quand même garder le 1.5, puis il semble pas qu'on ait d'idée pour amener le 2 litres. Hein? Alors ça, c'est peut-être un peu dommage, mais quand même,
ouais.
On va avoir quelque chose de pas mal plus intéressant à offrir que ce qu'on propose actuellement, parce qu'on est en queue de peloton.
Là. Ben, c'est ça. Puis, l'intérieur, évidemment, on a opté pour des plus gros écrans. Deux écrans, l'instrumentation.
Surprise!
Surprise. Ouais. 11 pouces pour l'instrumentation, 11.3 pouces pour le système d'infodivertissement qui est axé vers le conducteur. On a parlé chez Chevrolet, chez GM en général, d'abandonner les suites logicielles Apple CarPlay puis Android Auto, tout dernièrement.
Erreur,
grossièrement. En tout cas, elles sont tellement appréciées. Moi, j'ai confirmé avec les gens chez Chevrolet, quand j'ai vu le véhicule à Détroit, que ce nouveau Equinox-là est toujours équipé des Apple CarPlay et Android Auto. Donc, peut-être que c'est un tranquillement, pas vite, dans les nouveaux modèles, on va les enlever. Mais pour le moment...
Moi, j'ai plus le feeling qu'on va revenir sur notre décision.
Ben, écoute...
C'est un facteur d'achat aujourd'hui.
On tente le terrain en ce moment. Ouais. On a annoncé ça, puis je pense que la réponse a été extrêmement négative, parce que... Le Google Built-in, ça fonctionne. C'est juste que c'est tellement, les gens ont tellement adopté Apple CarPlay puis Android Auto qu'ils vont probablement, exactement comme tu dis, mettre ça comme facteur dans leur décision d'achat.
Absolument. Autre produit qui a été dévoilé, c'est l'évolution de la GTI, de la GTI de 8e génération, 8.5 en fait, parce qu'il y a des petits changements qui ont été apportés là-dessus.
Oui.
Il y en a un dont on connaissait déjà la nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boîte manuelle, mais on a apporté des changements cosmétiques à l'habitacle aussi et sous le capot.
Mm-hmm. C'est sûr qu'on a gagné à peu près 19 chevaux sous le capot, ce qui est la bonne nouvelle.
J'aime ça quand il dit à peu près 19 chevaux. Je trouve ça particulièrement précis. Ça dépend comment
en santé qu'ils sont, les chevaux.
Oui, c'est ça. Mais c'est 262 chevaux au total, ce qui veut dire 10 chevaux de moins que la première Golf-R. Donc, c'est quand même quelque chose. Puis ça demande voiture à traction.
Ouais, c'est
et
ça.
Et uniquement avec la boîte DSG désormais.
Ouais. Mais une voiture à traction qui gère quand même bien son effet de couple, là, on va se le dire, avec les je pense qu'on l'a tout essayé, ce véhicule-là. Puis c'est un véhicule qui est quand même bien calibré. Toi,
Louis-Philippe, parce que tu gères bien ton effet de couple?
Parce
que Laurence m'a dit que ça allait très bien. On la salue d'ailleurs.
Bon. Tant mieux. Écoute, dans la GTI, c'est les écrans qui étaient le gros problème dans cette génération-là, je pense, hein, quand on a dit la première fois qu'on a embarqué dans ce véhicule-là.
Pour être propriétaire d'une Golf-R, je te le confirme.
Écran et plastique. C'était le plus gros problème. Là, on enlève la manuelle, on se demande, on va-tu enlever les sièges carrelés la prochaine fois dans la GTI, parce qu'on nous enlève pas mal tout. Là, l'écran est un petit peu plus gros.
Pour ta gouverne, on appelle ça le tissu Clark.
Le tissu Clark.
Alors, voilà.
Pas le carotté, Louis-Philippe.
Exactement.
Oui, puis on a gardé certains boutons, on a changé certains boutons sur le volant, etc. Puis comme tu dis, un petit peu plus de puissance. Mais c'est sûr, c'est déplorable. La transmission manuelle, là, on le savait depuis un bout de temps, mais là, c'est devenu réalité, on ne la verra plus.
Alors, modification au niveau des écrans dans l'habitacle, changement cosmétique aussi à l'extérieur, calandre, pare-choc, jantes qui sont très belles, qui ont été modifiées. On n'a pas encore de nouvelles de la Golf-R, mais on peut s'imaginer que ça va aller dans le même sens si, bien sûr, elle est de retour. Et y aura-t-il plus de puissance sous le capot de la Golf-R au suspense?
Mmh.
Mais chose certaine, cette GTI-là risque d'être bien intéressante, même s'il n'y a plus de manuel. Et la question que je me posais, y aura-t-il encore une manuelle dans la GLI? Parce que s'il n'y a plus de manuel dans la Golf-R, dans la GTI, ben la GLI demeurerait désormais, avec la Jetta, la seule disponible en manuel. Alors, ça pourrait devenir une espèce de plus-value pour ceux qui considèrent la transmission manuelle comme un incontournable.
Ouais.
Je veux aussi parler de VinFast parce que, bien sûr, ils font actuellement un stunt publicitaire incroyable au Salon d'Auto de Montréal en ayant sur place pas moins de 6 véhicules. Alors, ça fait énormément jaser. Et on peut même en faire l'essai avec le CAA Québec en périphérie du salon. Vous savez, vous pouvez essayer plusieurs véhicules électriques. Toyota BZ4X, Nissan Ariya. Bref, il y a énormément de modèles. Et le VinFast VF8. Mais, oh surprise! On a eu quelques petits pépins avec les VF8 sur place. Et ce que je me suis laissé dire, c'est que, bon, d'abord, réinitialisation d'écran, ça fonctionne pas parfaitement. On a des problèmes à gérer ce qui se passe dans l'écran.
C'est les mêmes problèmes que les propriétaires actuels relèvent là, sur leur véhicule en ce moment.
Il y en a un que j'ai trouvé particulier. Alors, on met le véhicule en reculons. Et vous savez, un véhicule électrique, ça répond instantanément. Donc, vous êtes en reculons, le véhicule n'est pas tout à fait immobilisé, on met ça en drive, on part. Ne pas faire ça avec un VF8, car ça vient de le mêler complètement.
OK. Essentiellement,
il y a plusieurs personnes qui ont voulu mettre ça en drive alors que le véhicule n'était pas complètement immobilisé depuis au moins une seconde. Et ça a créé un shutdown complet.
Bon.
Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus moyen de mettre ça en reculons ni en drive. On était pris sur place. Et la seule façon de pouvoir régler le problème, c'était d'éteindre le véhicule, mais en même temps, ça ne s'éteint pas vraiment. Donc, sors du véhicule, verrouille-le, redébarre, embarque dans le véhicule, mets ça sur le drive et va-t'en.
Ouais. C'était une vieille blague d'informaticien à l'époque. On disait, bientôt les voitures seront comme Windows, va falloir le redémarrer, l'éteindre.
Control, Alt, Delete en premier.
Ça vient de commencer maintenant. Ben, en fait, t'as remarqué que dans le nom VF8, il y a F8. Alors, si tu pèses sur ton Alors, c'est peut-être ça la touche magique.
Vite, F8.
C'est ça. Et ironiquement, je me suis abonné à la page VinFast Québec, moi, la semaine passée, et là, je vois toutes sortes de messages passer. Et il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un VF8 au Québec qui s'est fait rentrer dans le derrière.
Oui, j'ai vu ça.
Et as-tu vu que la lettre F était disparue? Donc, c'est un VinFast V8.
Ben, écoute.
Moi, ça, j'ai trouvé ça pas pire. J'ai trouvé ça très drôle. Cela étant dit, ouais, il y a des pépins avec le VinFast. Alors, on s'est fait poser des questions tout au long de la semaine sur VinFast.
Oui, ah oui, au Siam, oui.
Et bien qu'il soit très audacieux, j'ai encore un peu de misère à recommander ce produit-là, mais ça fait jaser.
Oui.
Chose certaine.
Les gens ont peur un peu, moi, qu'est-ce que...
J'espère pour
mes heures dans le kiosque, là, ben c'était, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma réservation? Est-ce que je m'en débarrasse?
Ta réservation, t'as pas de réservation à avoir, ils en ont plein cours. Ils ont des troisième étage remplis de VinFast VF8 à Dorval.
Mais il faut qu'ils livrent, puis là, pour que les gens commencent à les rouler, puis que ces bugs-là ressortent, et puis que cette information-là soit envoyée à la maison mère, parce que c'est comme ça, comme on disait il y a quelques semaines, que c'est des mises à jour over the air, l'info nuagique. Il faut que ça roule, ça, pour avoir du feedback de ces véhicules-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réparer les bobos là, chez VinFast,
c'est
pas le choix.
C'est quand même... J'irais quand même légèrement inquiétant. Les premiers sont arrivés cet été. On est au mois de janvier. On n'a pas l'impression que ça ait bougé tant que ça au niveau des mises à jour. Donc, il y a déjà quand même une latence de 6 mois.
Ben, en fait, il y en a eu des mises à jour, mais peut-être que ça en prend beaucoup.
Ouais, c'est l'impression que ce qui ressortait quand on lisait des essais un petit peu partout à travers différents journaux.
Ouais.
Mais en même temps... Moi, je ne veux pas me fier à ce qui a été écrit aux États-Unis parce qu'ils ont essayé là-bas des versions de pré-production qui ne sont pas celles qu'on a ici, avec des technologies qui ne sont même pas offertes ici. Fait que, tu sais, je vais me faire une tête sur vraiment le produit vendu ici, puis il y a une manne d'informations sur la page VinFast Québec que vous pouvez aller chercher là.
Oui.
Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça. Mais bref, le bilan n'est pas jusqu'à date hyper positif, du moins si je me fie à ceux qui sont organisateurs de ces essais de véhicules électriques au Salon de l'Auto de Montréal. Tesla, on en sait un peu plus sur le modèle qui va se situer au début de la hiérarchie de la gamme, donc sous la Tesla Model 3.
Ben oui, la Redwood, c'est parce qu'on donne des noms de projets là, chez Tesla. On se fait un fun fou avec Highland, avec la Model 3 qui est maintenant sortie et qui a débuté à être commercialisée là, au Canada. La Redwood, c'est la voiture abordable. On a déjà entendu ça là, avant, là, de la voiture abordable, une voiture à 25 000 US, une voiture à 35 000 US. C'est une voiture qui doit compétitionner avec BYD, le constructeur chinois qui a dépassé Tesla, puis c'est une grande menace pour Tesla. Et puis, cette voiture-là doit rentrer dans le marché, doit arriver pour être capable de sauver un peu la donne et donner la confiance aux investisseurs, parce que c'est tellement spéculatif souvent chez Tesla, il faut lancer un nouveau produit à chaque fois. Les Cybertrucks vont être très dispendieux à assembler. Ceux qui sont livrés maintenant, c'est ceux à 100 000 et plus, mais là, il faut commencer également à livrer ceux qui sont de base, entre guillemets. Donc, c'est difficile. C'est un gros procédé. Il faut rassurer les investisseurs, il faut rassurer les acheteurs.
C'est un succès garanti.
Ah, c'est quoi? J'ai aucun doute là-dessus. Mais ils connaissent quand même leurs problèmes d'assemblage, je veux pas. Et ce modèle-là à 25 000 US va venir un peu, comme tu dis, supporter, débuter cette gamme-là chez Tesla. C'est sûr que comme tous les constructeurs, on va commencer à 25 000 US. Là, après ça, ça va monter un petit peu quand ça va arriver sur le marché. Les versions plus dispendieuses vont être livrées en premier. Ça ne sera jamais sur à 25 000. Mais par contre, Tesla se doit de faire quelque chose de plus abordable justement pour faire face à la compétition asiatique là, qui est très forte.
D'autant qu'en Europe, ça hausse. Parce qu'on a tendance à l'oublier, le marché de la voiture compacte est en train de s'organiser dans l'électrique très très fort.
Ouais,
et là, Tesla, ils vont vraiment avoir besoin aussi d'avoir ce véhicule-là. On pense à la Volkswagen ID2. Il y a la Renault 5 qui va sortir l'année prochaine.
Mais... Juste dans les salons en Europe, cette année, en 2023, justement, les constructeurs asiatiques étaient tellement présents, veulent prendre des parts de marché en Europe, ça s'en vient inévitablement ici. Là.
C'est clair.
Bon, évidemment que cette Tesla qui risque de s'appeler la Tesla 2, là, ou Model 2, si on peut se fier à ce dont on a entendu.
Une bonne déduction.
Ça pourrait aussi rivaliser avec la future Chevrolet Bolt, des produits comme ça. Mais on sait que ça ne sera pas une berline, mais ça va être une espèce de multisegment, là, qui, moi, me donne l'impression d'un format qui pourrait ressembler au VinFast VF6 qu'on a vu. Alors, peut-être un Chevrolet Bolt EUV un peu pimpé en termes de format. Là. Pensez à quelque chose comme ça.
Oui.
Ça sera aussi le cas de la prochaine Nissan Leaf, qui va être catégorisée comme un multisegment et non plus comme une voiture.
Comme une compact,
alors, c'est certain que ça sera la formule à adopter pour des véhicules électriques entre gros guillemets d'entrée de gamme dans l'industrie automobile.
Oui.
De son côté, Ford, devrais-je dire fidèle à ses habitudes, rappelle quelques unités avec des petits problèmes pour l'Explorer. Moi, ça me rappelle un certain... En fait, c'est un problème un peu moins grave que ce qu'on avait connu avec les Explorers au début des années 90 avec l'histoire des pneus Firestone.
Ah oui.
Mais c'est quand même 2 millions de Ford Explorer.
Oui, c'est pas un gros problème en tant que tel, comme tu l'as mentionné. C'est pas le même type de problème. Par contre, on a des pièces du véhicule, des pièces cosmétiques du véhicule qui peuvent se détacher pendant que le véhicule roule sur la route. C'est un rappel qui n'a pas causé d'accident encore selon les autorités, mais c'est quelque chose qui est essentiel à faire parce que, veux pas, si tu reçois un morceau de plastique dans le pare-brise sur l'autoroute qui vient d'un Explorer, ben, ça peut causer des problèmes.
Maison.
Alors, c'est des modèles
chers. C'est moins pire qu'un capot, remarque.
Là. C'est moins pire qu'un ou un gros morceau de glace là, qu'on voit aujourd'hui des fois.
Non.
2011 à 2019, c'est les modèles qui sont touchés par ce rappel-là. Et puis, bon, mais évidemment, c'est 2 millions de véhicules, comme tu le dis, c'est quand même assez.
Mais 2011, on s'entend-tu que la moulure peut se détacher parce qu'il y a des trous en dessous de la moulure, là? T'sais, la corrosion chez Ford, ça date pas d'hier. Fait que si la moulure tient plus parce qu'il n'y a plus de métal en dessous, ça aussi, ça se peut.
Ça se peut également, oui.
Bon, fait que. Mais puis j'aime ça parce qu'on rappelle des véhicules tellement vieux qui sont même plus sur la route. Fait que c'est un bon truc. T'es rappelle tellement tard que t'es certain de pas faire la job. On a fait ça chez Jeep récemment. On a rappelé des Grand Cherokee 2005. Ils n'existent plus, ces véhicules-là. Ils sont partis. Enfin, bref. Alors, si vous êtes propriétaire d'un Explorer 2011 à 2019, ça se peut que vous receviez une lettre si vous avez encore toutes vos moulures, bien sûr. Sinon, ben, ça ne vous concerne pas.
C'est ça.
Le guide de l'auto.
Hugues, cette semaine, on va parler d'une voiture qui m'a toujours un peu fasciné. C'est la Ford Thunderbird des années 80. Puis évidemment, je parle pas des premières années de 1980 parce que c'était une Thunderbird non mémorable.
On va y revenir.
Mais Thunderbird à partir de 1983, le modèle qui était très aérodynamique, arrondi. Il y a eu plusieurs versions. Et avant de te lancer là-dedans, moi, je veux juste te dire que c'est une voiture qui m'a fasciné dès mon jeune âge parce que j'ai un oncle qui a possédé une 84 Turbo Coupe manuelle, qui est une voiture assez rare aujourd'hui, oui, qui est même une belle curiosité.
Oui, absolument.
Là. Alors, je te laisse aller, mais on commence peut-être par parler de cette nouvelle génération de Thunderbird qui n'avait rien à voir avec le modèle précédent. Là.
Ben non, en fait, quand il la présente... Peu de gens réalisent que cette voiture est une véritable révolution chez Ford. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est parce que la voiture a été autant dessinée par des designers qu'en tunnel de soufflerie.
OK. Bon. Et les raisons qui ont poussé Ford à s'en aller dans cette direction-là, évidemment, la Thunderbird est un porte-étendard un peu pour la marque Ford, est un nom qui est sur le marché depuis 1955.
Exactement.
Alors, et on ne l'a jamais abandonné essentiellement. Alors, c'est important là, pour Ford.
Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ford a décidé de casser un petit peu les choses. Déjà, il y a la crise du pétrole de 73 et de 79 qui a beaucoup chamboulé la donne. La montée en puissance des constructeurs japonais qui a chamboulé le marché. Ensuite, il y a l'apparition en 78 de normes de consommation qui sont plus restrictives. Donc, il va falloir faire quelque chose pour économiser de l'essence. Sinon...
Oui, et les Ford en 1978-19 n'étaient pas nécessairement des modèles économiques.
Non.
Des 400 puis des 460 pouces cubes, c'était moyen économique, ouais. Ça.
Et la troisième raison, elle est toute simple, c'est que la huitième génération de T-Bird, qui est surnommée la Boxbird, elle avait bien démarré en 80, mais très vite, les ventes ont baissé. Elles sont passées de 156 000 en 80 à 45 000 en 82. Donc visiblement, un char carré, ça ne marchait plus. Et il fallait faire autre chose.
Bon, est-ce que Ford était capable d'amener cette voiture-là à un autre niveau? C'était la grande question, parce qu'évidemment, il y avait toute une question de changement d'image aussi du nom Thunderbird avec cette génération-là.
Alors en fait, au début... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en place qui sont conservateurs. Et ces gens-là vont progressivement disparaître de la direction de Ford,
okay.
Ce qui va faire changer les choses. Lee Iacocca est renvoyé en juillet 78.
Ouais.
Il est remplacé par Philip Caldwell. Henry Ford II, qui est quand même le patron de la boîte, il y a son nom sur le building, lui, il n'aime que les calandres verticales. Lui, les chars aérodynamiques, il ne veut rien savoir. Et lui part en octobre 79. Donc là encore, il est remplacé par Philip Caldwell et Philip Caldwell est remplacé par Donald Peterson. Et c'est ces deux-là qui vont vraiment amener Ford dans les années 80, qui vont assurer la révolution.
Parce que bon, évidemment, il faut comprendre que c'est un 83 le véhicule, mais on commence à travailler sur cette voiture-là 4-5 ans plus
tôt.
C'est ça,
vers 78-79.
Ok.
Deuxième point, il y a des gens aussi qui changent au niveau du design. Le patron du design quitte... en 1980, fin 80, suite à une crise cardiaque, c'est Gene Bordina, et il sera remplacé par Donald Kopka. Ensuite, le designer qui va vraiment être celui qui va faire bouger les choses, c'est Jack Telnak, et lui a travaillé en Europe dans les années 70, et il sait l'importance d'une bonne aérodynamique pour faire réaliser des économies, et Telnak fera un excellent
travail.
Améliorer
les performances
absolument,
aussi.
Ouais. Et Telnak fera tellement bon travail que c'est lui qui va devenir directeur du design de Ford en 87. Et donc, à partir de là, Telnak et Kopka, les deux designers, vont se faire les champions de l'aérodynamique chez Ford. Et ils ont la mission d'éduquer le public, parce que le public n'est pas du tout habitué à ça, mais aussi les équipes dirigeantes de Ford, qui, eux, comprennent pas très bien. Donc là, pour ça, ils lancent les prototypes probes, 1, 2, 3, 4, 5, qui vont être produits de 79 à 85, qui vont être de plus en plus aérodynamiques et qui vont déjà permettre un petit peu de montrer c'est quoi une voiture aérodynamique. Et enfin, une petite anecdote, parmi les designers, il y a un type qui s'appelle William Boyer et il a travaillé déjà sur la première génération et la deuxième génération. Ensuite, il a travaillé un peu dans le monde et un de ses derniers designs, c'est la 9e génération de T-Bird. Donc lui, c'est Monsieur T-Bird, il a un véritable historique avec la voiture.
Ok, alors présente-nous cette voiture-là qui, à cette époque-là, devait toujours rivalisé avec des modèles comme la Chevrolet Monte Carlo, la Dodge Mirada qui était en fin de carrière aussi. Alors, mais la Monte Carlo, c'était un produit qui était établi. On l'avait redessiné en 81. Ça avait beaucoup de succès. Alors que là, on était champ gauche à côté design. Là.
Absolument. La voiture est introduite le 17 février 83. Elle est surnommée, logiquement, Aerobird. Toutes les T-Birds ont un surnom. Elle repose, comme la 8e génération, sur la plateforme Fox, qu'on retrouve principalement sur la Mustang.
Ouais.
Mais cette fois-ci, l'empattement est raccourci de 11 cm. Le poids est réduit de 45 kg, mais l'habitabilité reste à peu près la même. Le CX passe à 0,35, ça c'est un point important.
Ce qui est exceptionnel pour l'époque.
Pour l'époque, tout à fait. Oh, parce qu'en comparaison, une Mustang 79, qui était déjà plus avancée à ce niveau-là que bien d'autres modèles Ford, faisait 0,44. Donc on est déjà très très bien.
Ce qui est le même coefficient aérodynamique que le K-Car de Chrysler. Et je me suis toujours, j'ai toujours rigolé avec ça, parce que s'il y a une voiture qui ne l'est pas aérodynamique, non. C'est bien ça.
Non. Et en fait, il y a une histoire intéressante, c'est que quand on regarde les tout premiers modèles, on voit que les phares ne sont pas intégrés.
Ouais. Alors, c'est pour vous situer, c'était des seal beams.
C'est ça.
Alors, ce qu'on achetait au Canadian Tire à 10$, là, les phares carrés intégrés à l'intérieur des blocs optiques, ce qui est évidemment pas génial pour l'aérodynamisme.
Non, pas du tout. Et en fait, c'est parce que c'est le gouvernement américain qui imposait ces phares-là.
Ouais.
Et Ford s'est battu pour justement aller chercher des phares affleurants. Ils ont réussi à faire changer la loi en 83, mais c'était déjà trop tard pour la T-Bird et le changement va se faire un petit peu plus loin.
Et je te pose une colle. Quelle était la première voiture du groupe Ford à avoir des feux affleurants sur le marché?
La Continental Mark 7.
T'es en quelle année là?
84.
OK. Alors, t'es en même année que moi, mais j'étais avec la Mercure XR4 Ti, mais qui était une voiture européenne.
C'est ça.
Qui était une Ford Sierra, voilà. En fait.
Et Ford américaine, en tout cas.
Ouais.
Donc, ensuite, sur la T-Bird de base, il y a deux versions, base et héritage. Le moteur de base est un V6 3 litres 8 de 110 chevaux, pas terrible. Vient ensuite un V8 302 pouces cubes, 4,9 litres, 230 chevaux, avec une boîte à OD avec overdrive en option.
Intéressant que tu dises 4,9 litres, parce que même si Ford a passé son temps à dire que c'était son fameux 5 litres, la cylindrée, c'est 4949 cc. Donc techniquement, c'est un 4,9
litres. Ouais. C'est comme ça les chiffres. La voiture est bien accueillie par la presse globalement. Ouais. Elle a d'ailleurs failli gagner le titre de voiture de l'année 83, mais elle la perdra face à la Renault Alliance.
ce qui est assez fascinant. Remarque, la Renault Alliance méritait aussi son titre pour l'époque.
À l'époque, oui. Après, ça sera une autre histoire.
Bon, évidemment, il y aura eu aussi des versions un peu plus poussées. J'en ai parlé en début de chronique.
Voilà.
La version turbo qui débarque avec une mécanique partagée avec une Mustang aussi, qui était la Mustang SVO.
Alors, pas tout de suite. Elle arrive avec un 4 cylindres doté d'un turbocompresseur, injection électronique, 2,3 litres, 142 chevaux. Il n'y a pas encore la mécanique de la SVO, elle va arriver un petit peu plus tard.
Mais c'est le même bloc, là, essentiellement.
C'est le même bloc.
Oh, ouais, c'est le même
c'est
bloc.
Le même bloc. Ouais. Boîte manuelle avec levier de vitesse sur la console centrale, direction plus directe, essieu arrière à glissement limité, déflecteur avant, phare anti-brouillard, roue en aluminium, c'est un vrai char de sport.
Puis tout ce qui s'appelle chrome sur la voiture est éliminé aussi. En fait, 6 mois après le début de production de la Turboco, parce que les premières unités avaient un look un peu curieux, puis on s'est rapidement ravisé, mais ça avait un look beaucoup plus moderne que n'importe quel autre coupé américain.
Là. Absolument. Et en fait, la voiture séduit beaucoup les acheteurs.
Ouais.
Et la nouvelle T-Bird explose ses chiffres de vente par rapport à 82. On passe de 45 000 à 122 000 exemplaires. Donc la réaction est bonne. Ce qui est très important pour Ford, parce qu'il y a d'autres modèles aérodynamiques qui vont arriver l'année suivante, la Tempo et justement la Continental Mark 7.
Et suivra quelques années après aussi la Taurus, qui aurait été un succès extraordinaire. Bon, évidemment, Ford a fait évoluer cette voiture-là, a lancé de nouvelles versions, a fait évoluer ses mécaniques aussi. Là.
Bien sûr. En 84, les V6 et les V8 reçoivent l'injection. La boîte automatique est disponible sur le Turbo Coupe. La version de luxe héritage devient Élan. Et il y a une version Fila.
Ouais, ça, je trouve ça intéressant.
Très intéressante, faite en association avec un couturier italien qui est vendu. Elle a une carrosserie de ton, des roues en aluminium de couleur coordonnée, des bandes décoratives rouges et bleues et un intérieur en cuir blanc.
Et tu l'as uniquement en blanc, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, la peinture extérieure est blanche.
En fait, c'est des anthracites, plus ou moins clairs.
OK. Mais bref, ça avait un look assez particulier. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir vu une voiture comme celle-là, mais j'en ai dans des catalogues. J'ai lu là-dessus, mais j'ai pas l'impression que j'en ai vendu énormément.
J'ai pas trouvé de chiffres séparés pour cette version en particulier. Ouais. Mais le modèle 84, c'est très très bien vendu, 170 000 exemplaires, ce qui est excellent pour une année pleine.
Ben oui. Et c'était pas quand même des voitures qui étaient grand public, c'était cher une Thunderbird à l'époque. Là. Et Ford a fait payer très cher sa technologie. On les vendait plus cher que les Monte Carlo équipements équivalents. Et si tu voulais payer encore plus cher, tu vas aller chez Mercury acheter une Cougar qui était essentiellement la même voiture, mais avec un habillage un petit peu différent.
Et un arrière taillé à la serre, assez bizarre.
C'est ça. Moi, je me souviens la blague d'un type qui avait dit « Moi, j'aime pas ça, la Thunderbird, parce qu'on dirait qu'elle a deux pare-brise. J'aime mieux avoir une partie arrière tronquée. » Enfin, bref. Voiture qui a évolué aussi en 87, mais avec un habillage un peu différent. Ils ont refait la carrosserie, essentiellement.
Alors oui, les faciès arrière et avant sont revus. Et là, cette fois-ci, les phares effleurants apparaissent.
Ouais.
La vitre arrière est revue et le pare-brise arrière est agrandi.
Ouais.
Et là, c'est le modèle turbo coupé qui est vraiment amélioré. Le 2,3 litres gagne son refroidisseur air. Et là, on retrouve une mécanique assez similaire à celle justement de la Mustang SVO.
Qui n'existe plus à ce moment-là déjà.
Ouais. Et la puissance monte à 190 chevaux en manuel uniquement parce que la boîte automatique n'était pas capable d'encaisser ça. Et la puissance, dans le cas de la boîte automatique, était limitée à 150 chevaux.
Ouais, les ça roues, fait une différence quand même considérable. Il n'y avait pas d'équivalent chez Mercury. Donc, c'est ça, la Cougar XR7 avait son V8, mais il n'y avait, avait pas d'équivalent.
Donc, les roues passent en 16 pouces, 4 freins à disque, anti-blocage de série. Et ce qui fait que c'est très rare, mais la Turbo Coupe 87 prend le titre de voiture de l'année. Ce qui est très rare pour un véhicule juste
qui
restylé,
nouveau,
qui n'est pas un nouveau véhicule. Et en fait, la voiture a tellement impressionné les essayeurs qu'elle a récupéré le titre de voiture de l'année. Le reste de la gamme évolue un petit peu. Le V6 reçoit une boîte automatique 4 rapports.
Ouais.
Et l'élan devient la Helix. Et une version sport est ajoutée. Pas beaucoup d'autres changements. Pour 88, nouvelle injection multiport, multipoint sur le V8, échappement double, version sport. Et on reste encore à des niveaux de vente intéressants, 147 000 exemplaires.
Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, la Thunderbird en est à sa dernière année modèle en 88 avant de complètement être redessinée et de regagner des titres de voiture de l'année en 89 parce que là, on amenait la T-Bird à un autre niveau avec une voiture plus grosse, encore plus performante. Mm-hmm. Bon, bref, mais il y aura quand même eu... cette voiture-là aura servi quand même comment je pourrais dire ça, de modèle pour plusieurs autres produits chez Ford qui ont été faits dans le futur.
C'est la voiture qui a vraiment fait rentrer Ford dans les années 80. Après l'Aerobird, justement, il va y avoir les Tempo, Mark 7.
C'était pas la Mercury Zephyr, non? Ou la Ford Fairmont? Pas exactement.
Pas exactement.
OK.
Et en fait, elle va aussi servir d'un avant-goût et habituer le public à des nouvelles formes aérodynamiques et va préparer le terrain pour la voiture qui va littéralement sauver la marque Ford. C'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, la Taurus en 86. Ouais. Et il faut savoir que beaucoup de gens à l'interne doutaient du potentiel de la Taurus et en fait, les dirigeants étaient très très paniqués au lancement. Et les bons chiffres, les bons résultats, la bonne acceptation de la T-Bird sur le marché a quand même beaucoup rassuré les dirigeants de Ford. Et ça, c'était une bonne chose puisque après... On sait, le restant des années 80 et 90 seront quand même plutôt très, très bonnes pour Ford.
Ouais. Et surtout avec la Taurus qui a été meilleur vendeur dans son segment pendant plusieurs années aux États-Unis.
Et même meilleure voiture vendue en 92. Donc, toutes catégories confondues.
On pourra revenir sur la T-Bird dans une autre chronique, mais d'ici là, merci Hugues pour ça. Et on se retrouve dans quelques instants.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage. Ni accrochage.
Bilan des constructeurs, ou plutôt des marques, devrais-je dire. On se concentre aujourd'hui, les gars, sur la marque Genesis, qui pour moi a toujours été une curiosité, parce que Hyundai a d'abord mêlé les gens en lançant des Hyundai Genesis sur le marché,
Genesis,
c'est ça.
Ouais.
Alors autant le coupé que la berline, t'avais un coupé qui avait rien à voir avec la berline, qui s'appelait des Hyundai Genesis. En cours d'année 2016, ben là, la Hyundai Genesis est devenue une voiture Genesis. Et pendant quelques années, Genesis n'a vendu que des voitures à contre-courant complètement.
Oui, c'était surprenant dans ce temps-là. Là.
Et il fallait comprendre d'où venait Genesis pour réaliser la raison pour laquelle on ne vendait que des berlines alors que tout le monde était dans le VUS. C'est qu'il faut comprendre que sur le marché de la Corée du Sud, les grandes voitures de luxe ont la cote encore aujourd'hui.
Absolument.
Sont oui. extrêmement populaires. La Genesis G80, qui est une grosse voiture de luxe qu'on vend aujourd'hui autour de 80 000 $ est une des voitures les plus vendues en Corée du Sud. Alors, c'est quelque chose de complètement inimaginable
ici,
sur notre marché.
Mais
ça explique pourquoi on a mis autant d'énergie à développer ces voitures-là et à les amener chez nous. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant comme formule parce que tous les Américains abandonnaient leur héritage. Chrysler, Lincoln, Cadillac abandonnaient leurs voitures les unes après les autres.
Toutes des utilitaires les remplaçaient.
Oui, les Acura, je dirais pas Lexus, mais Acura Infiniti, les voitures s'abattaient de l'aile. Alors, Genesis a pris la balle au bon, est allé chercher des petites parts de marché, surtout aux États-Unis, dans un segment où tout le monde abandonnait. Alors, c'était intéressant de voir ça, mais là, évidemment, sont arrivés les VUS, le GV80, le GV70. Et aujourd'hui, ben, je trouve que Genesis est dans une position extraordinaire, a un portfolio de véhicules franchement intéressant. Et pour avoir parlé avec le dirigeant de Lexus Canada tout récemment, il m'a confié que la marque qu'il regardait le plus dans son rétroviseur, c'était Genesis. C'est pas Cadillac, c'est pas Infiniti, c'est certainement pas Acura. Les Allemands, on les considère plus ou moins parce que c'est très variable et la clientèle n'est pas nécessairement la même. Mais chez Lexus, où on a une clientèle fidèle, ben, lorsqu'on perd des clients, c'est parfois parce qu'on s'en va chez Genesis et ça, c'est à considérer. Vous avez conduit des produits Genesis, vous en pensez quoi? Vous avez vu ces produits-là aussi? Là?
Un des plus gros challenges de cette marque-là, ça a été de se détacher un peu de Hyundai, de l'image qu'on avait de Hyundai. T'sais? Parce qu'au Québec, bon, tous les salons qu'on a fait à Montréal, quand que Genesis arrivait, les véhicules arrivaient tranquillement, le monde disait « Ah, oh, moi, je veux pas ça, c'est une cochonnerie de Hyundai ou je sais pas quoi. » C'est pas le cas, puis c'est quelque chose qui m'a... C'est un véhicule qui se distance très bien de sa marque mère, puis aussi qui fait un beau travail à créer son propre luxe, là. À créer, des fois, on lit des communiqués de presse chez Genesis, puis bon, ça devient compliqué, là. Le tableau de bord est fait en bois d'un arbre qui a été coupé dans une montagne sacrée, ou je sais pas quoi. Des fois, on dépasse les bornes, là. Mais tout pour dire que si vous êtes déjà installé dans un véhicule Genesis, on remarque la qualité, on remarque les matériaux, on remarque l'attention.
Il y a une attention
au détail, puis et original. Original qui se distingue.
Je pense que c'est le point, moi, qui me séduit le plus chez Genesis, c'est que depuis 20-25 ans, tout le monde essaye de faire comme les Allemands, même les Américains. Et Genesis est arrivé et a dit non, on va faire à notre façon à nous.
Ouais.
Et on va arriver avec notre façon de faire. Et quand on regarde un char allemand, c'est pratiquement tout le temps la même chose depuis 15 ans.
Ouais.
C'est tout le temps la même chose depuis 15 ans en termes de design. Ils changent une ligne, un truc. On monte dans un char allemand, bon, c'est tout, partout pareil. Et on rentre dans une Genesis, on fait ah! C'est différent.
Mais en même temps, on s'est quand même un peu inspiré. Tu sais, il y a de l'inspiration Bentley, il y a de l'inspiration de plusieurs...
On a fait affaire avec des grands designers, là, quand même.
C'est vrai, parce que de toute façon, on peut pas réinventer complètement l'habitacle.
Exact.
Mais en même temps, je trouve quand même qu'il y a une façon de faire qui est propre.
Ouais.
Au lieu d'être plus allemand que les Allemands, ce qu'a essayé de faire un petit peu Cadillac, ils sont arrivés en disant, non, nous, on va être coréens, on va faire notre façon de faire coréenne, et puis on verra. Et puis ça marche.
Et puis ça fonctionne. Bon, évidemment, on a encore un réseau de concessionnaires relativement limité. On n'est pas installé comme Lexus, comme Acura encore. Ça s'en vient. C'est une marque qui a 6 ans bien sonné maintenant sur notre marché et on est encore en mode séduction. On a aussi eu des problèmes d'approvisionnement de véhicules, ce qui explique des augmentations de ventes en 2023 que je considère timides pour cette marque-là,
oui.
Même si aujourd'hui on est rendu carrément au même niveau que Lincoln. On a même dépassé Infiniti cette année. Tu vas me dire que c'est pas compliqué, mais Infiniti est arrivé sur le marché en 1990 chez nous. Là.
Oui, ça fait longtemps.
Et ça, c'est une marque qui se cherche. Alors, ouais. Le portfolio de Genesis est composé de 6 produits en ce moment. 3 voitures, 3 VUS. Et bon, on pourrait plus dire 2 VUS et un véhicule électrique qui se prend pour un VUS.
C'est ça. Ouais, ouais.
Mais
le
qui
petit
en bon sens, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce produit-là, moi, qui me surprend au niveau des chiffres de vente. 454 ventes l'année passée au pays tout entier.
Pas beaucoup.
Non subventionné. Alors, c'est un véhicule qui n'est pas éligible aux subventions et que par la peau des fesses. Et j'ai l'impression qu'on a décidé de se concentrer davantage sur d'autres marchés pour cette raison-là. Parce que les subventions, on les obtient chez Volvo, on les obtient chez Audi, on les obtient chez certains autres constructeurs qui ont des véhicules rivaux,
oui.
Tesla évidemment, mais le GV60 n'est pas éligible et ça, ça lui a fait très mal.
Il faut parler aussi de la différence entre le GV60 puis le GV70 électrique. Qui
ça n'a rien à voir.
Qui n'a rien à voir. Là, les gens pensent, bon, GV60, OK, GV70, lequel que j'achète. Le GV60 est bâti sur la plateforme EGMP,
ouais.
Qui est partagée à l'Ioniq 5, à V6, etc., qui est partagée Kia Hyundai. Et puis, le GV70, c'est la plateforme du véhicule à essence.
Ben, c'est un véhicule adapté.
C'est un véhicule adapté. Ouais. Donc, moteur en avant, moteur en arrière, et puis la batterie. On a pris ce véhicule-là parce qu'on voulait embarquer dans le segment des utilitaires compacts de luxe,
ouais.
Le plus rapidement possible. Mais il faut s'attendre aussi à ce que Genesis arrive avec son GV70 électrique bientôt pour avoir une gamme qui est un petit peu plus logique. On a fait la même affaire avec la G80 berline d'ailleurs, là, qui est un véhicule adapté.
Oui, mais la G80, évidemment que c'est pas du gros volume là. Chez nous.
Ah non.
Tu vois, c'est 383 unités en 2023. La G70 qui vient rivaliser avec des Audi A4, BMW de série 3, ce genre de véhicule-là, Mercedes de classe C, bien évidemment, on est dans un segment en dégringolade. Alors, il y a beaucoup moins d'acheteurs de classe C qu'il y en avait il y a quelques années. C'est la même chose pour la série 3, c'est la même chose pour la 4.
Ouais.
Écoute, la Cura TLX, on n'en parlera même pas. Ouf. Qui achète ça? Lexus IS, ça se vend encore un peu. Infiniti, la Q50, c'est une super bonne voiture.
Une vieille voiture.
Mais c'est du bois mort. Et c'est drôle parce que la G70, pour moi, c'est la voiture qui se rapproche le plus de la Q50 en termes de confection, de design, de courbe,
ouais.
De conduite même. Mais cette année, bon, j'en ferai l'essai dès la semaine prochaine. Elle débarque avec un nouveau moteur 4 cylindres 2.5 litres. Alors ça risque de lui donner un peu de pep. Et c'est un produit qui se vend encore bien aux États-Unis. Même chose pour la G80. Mais chez nous, évidemment, le produit le plus populaire, c'est le GV70,
oui.
Qui séduit tout le monde par son design, par son équipement. Écoute, t'achètes ça, là, c'est service inclus pendant 5 ans, c'est une qualité de produit qui est exceptionnelle.
Le modèle d'affaires, justement, tu le mentionnes chez Genesis,
ouais.
qui est quand même attrayant. C'est pas tout le monde qui le connaît, mais on offre un service quand même assez... de type concierge, là.
C'est oh
pour prendre le nom du constructeur là, qu'il utilise, mais c'est quand même sans tracas. Et puis, c'est ça qui fait parfois gagner Genesis dans certaines, dans certaines clientèles qui ne veulent pas aller passer du temps, par exemple, chez les concessionnaires Mercedes ou BMW, etc. Puis d'acheter un véhicule qu'on peut venir chercher au bureau ou à la maison pour faire les entretiens qui sont inclus d'ailleurs pendant un bon bout de temps.
C'est une marque qui est vouée, c'est une marque qui est en pleine ascension, qui va continuer de nous surprendre, je pense, dans les prochaines années. Alors, c'est 6617 unités qui ont été vendues au Canada l'an dernier. Et si tu compares avec le marché américain, on a vendu 68 798 véhicules aux États-Unis. C'est carrément du 10 pour 1. Alors, le ratio est parfaitement normal.
C'est ça.
Tu vois que l'ascension se fait de façon très linéaire.
Oui.
Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dès l'année prochaine. On va continuer de développer des trucs. Attendez-vous évidemment à un VUS encore plus gros que le GV80, probablement tiré du Kia EV9 et du Hyundai Ioniq 7, mais en version hyper luxueuse. Ça, on va amener ça dans les prochaines années, c'est certain.
Oui.
On va nous surprendre chez Genesis. Je pense que c'est une marque qui est vraiment sur la bonne voie, contrairement à des divisions comme Infiniti, Acura, où ça bat un petit peu de l'aile. On va maintenant passer à nos essais de la semaine. Louis-Philippe, oui, t'as conduit le Lexus TX. Moi, j'ai eu la chance de le conduire aussi au lancement médiatique. T'en as pensé quoi?
Ben, comme on dit, chez Toyota Lexus, on a le Grand Highlander, le Highlander, Grand Highlander et le Grander Highlander qui est le Lexus TX.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est quand même des véhicules qui se ressemblent. Grand Highlander et Lexus TX, là, c'est un peu un copier-coller, là, si on veut. Véhicule à trois rangées, évidemment. Un VUS à trois rangées. J'ai essayé la variante 350, c'est-à-dire la variante d'entrée de gamme, là, parce qu'il faut savoir que le TX a des variantes hybrides, hybrides rechargeables. L'hybride rechargeable, 550 H+, je pense, qui va arriver au Canada, mais qui n'est pas encore disponible. On ne peut pas tout de suite le commander sur le site.
Ouais.
On en reviendra à ceux-là, mais pour le TX 350, là, c'est un véhicule que j'ai aimé autant que le Grand Highlander quand que je l'ai essayé. C'est-à-dire, très spacieux. On a réussi à
faire... C'est le fun, on le sent excité.
On a réussi à faire une 3...
Calme ta joie.
On a réussi à faire une troisième rangée qui est acceptable dans ce véhicule-là, autant dans le Grand Highlander que dans le TX. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, que des gens qui cherchent un véhicule dans ce segment-là, c'est pas toujours le cas, qu'on est capable d'avoir un peu d'espace dans la troisième rangée. En termes de performance, on a le même moteur, hein, c'est 2.4 litres turbo. On développe 275 chevaux du côté du Lexus TX et 265 chevaux du côté du Grand Highlander. Par contre, c'est le même moteur. Je pense que le TX demande 91 d'octane. Le Grand Highlander demande de l'ordinaire. Si on mixe les essences, on va aller chercher les performances croisées. Ça va bien fonctionner.
Et c'est la même chose. Soit dit en passant, c'est exactement la même situation avec un Acura MDX versus un Honda Pilot.
Ouais.
Et c'est exactement la même situation avec un Infiniti QX60 versus un Nissan Pathfinder.
Ouais.
Alors, je ne sais pas pourquoi on continue de nous prendre pour des imbéciles comme ça. Parce que, je veux dire...
Fait
juste changer de carburant, puis c'est ça.
Exactement. Mais, ça n'a pas besoin de coûter plus cher qu'il faut.
Exactement.
Pour le D-Force, là.
Mais moi, j'ai trouvé que c'était un... Tu sais, dans la famille Lexus, le RX est un produit établi. C'est un produit qui, encore cette année, m'impressionne.
Ouais.
Le TX fait ce qu'il y a à faire.
Exact.
On comprend pourquoi on l'a amené, parce que le RXL, ça n'a pas fonctionné. C'était une erreur. Mais en même temps, c'est pas excitant. Là.
C'est pas excitant.
En matière de design, bien que plusieurs produits Lexus ne me rejoignent pas, c'est clairement un des moins originaux, des moins excentriques. C'est le plus pragmatique des VUS de luxe de son segment avec le QX60 d'Infiniti.
Qui est quand même un autre produit vieillissant. Là.
Ouais. Ben, pas vieillissant, parce que... Mais je veux dire, c'est zéro excitant, tu sais. Puis tu déplies quand même 80 000 piastres.
Écoute, on en vient à ça. Ça commence à 71 000 $ mais là, avec les options qui sont nécessaires, on déplie justement 80 000 $ Un Grand Highlander, ça commence à, je pense, 56 000 ou quelque chose comme ça. Bon. C'est une question qui se pose, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin, là, d'un Lexus TX?
D'une part, il y a des gens qui vont vouloir avoir le service Lexus, aller chercher cette insonorisation, ce confort supplémentaire qu'on peut aller chercher.
Les matériaux sont plus beaux. On a remplacé des plastiques par des matériaux qui sont plus doux au toucher. Là, je lui donne, là, quand même. Il y a des boutons qui sont plus chics, mais c'est essentiellement le même layout, la même disposition, la même...
Mais tu sais, j'ai lu des chroniques de collègues américains qui comparaient ça à un Audi Q7 en disant qu'on avait un véhicule plus économique qui sera... Oui, mais c'est pas du tout la même expérience, là. Pour moi, c'est une fourgonnette de luxe sans porte coulissante. C'est pas d'autre chose que ça, là.
C'est bien décrit. Moi, je trouve que je vais attendre la variante, par exemple, qu'on a parlé, la 550H+, qui peut peut-être être plus excitante, c'est 404 chevaux avec une autonomie
toute électrique. J'ai eu la chance de la conduire, mais ça va être légèrement au-delà des 100 000 $
Oui, c'est ça.
Alors, oui, il y a de la puissance. Oui, on peut rouler tout électrique.
Ouais.
Là, il y a de la belle technologie, mais ça va être au-delà des 100 000 $ En même temps, une Chrysler Pacifica Pinacle Plug-in Hybrid, c'est 76 000. Est-ce que ça vaut 25 000 de plus qu'une Chrysler Pacifica Pinacle? La réponse est oui. Mais laquelle est trop chère? la Chrysler Pacifica Pinac.
On est rendu à faire ces comparaisons là.
Ben oui. Puis tu sais, je suis certain que les gens de Lexus seront pas heureux de savoir que je compare leur TX à une fourgonnette, mais je peux pas comparer ça à un SQ7 là. Tu comprends-tu? On n'est pas dans le même
on n'est pas dans le même niveau de performance. Non, c'est vraiment le niveau d'expérience.
Puis voilà. Puis je pense que le TX 550H+ en termes de performance risque de se comparer, par exemple, à un MDX type S qui, lui, a aucune technologie hybride ou rechargeable ou quoi que ce soit, mais qui tente d'aller chercher plus de performance, avec probablement une dynamique supérieure, oui, mais quand tu sais qu'avec le Lexus, tu vas pouvoir rouler à 60 km tout électrique, puis après ça, rouler à 6 litres, 7 litres au 100 avec 400 chevaux, ça risque d'attirer bien des gens qui pour eux, sont prêts à débourser 100 000 pour un véhicule familial, mais ont aussi ce côté pragmatique et peut-être même écologique de dire
de bon, ben, rechargeable.
On n'a pas besoin d'avoir un monstre à la Range Rover pour déplacer les enfants.
Ouais.
En même temps, mon père m'a déplacé toute mon enfance dans une Pony et une Stellar, alors il y a des enfants plus gâtés que d'autres.
Toi, t'as conduit la Dodge Hornet.
Oui, le Hornet le RT Hornet. Plus. Facture du Dodge Hornet.
On commence par la facture.
On commence par la facture. Parce que le Hornet vient se glisser dans le créneau des CR-V RAV4. 67 500 $ pour le Hornet RT+.
Plus.
Hybride rechargeable avec un 4 cylindres de 1.3 litres turbo combiné à un moteur électrique qui te permet de rouler une cinquantaine de kilomètres tout électrique, puis après ça, ben, t'es à du 8 litres au 100. C'est rien de révolutionnaire. Le pire ennemi du Dodge Hornet, c'est son jumeau, qui est l'Alfa Romeo Tonale.
Oui.
Parce que Alfa Romeo a triplé ses ventes depuis que ce véhicule-là est arrivé, mais Dodge ne triplera pas ses ventes avec un Hornet. Parce qu'évidemment, ben, c'est difficile d'être compétitif avec un véhicule comme celui-là, qui est même plus à l'étroit qu'un Mazda CX-5.
Mm-hmm. Qui est déjà très étroit.
Qui est plus petit que tous ses rivaux.
Oui.
Et un Hornet, bon, t'as évidemment une version à moteur 2 litres turbo à essence traditionnelle, qui dépasse largement le seuil des 40 000 $ parce que tu n'en verras pas des versions de base. Alors ça, c'est la version GT. Et quand tu t'en vas dans la version RT, ben, c'est l'hybride rechargeable. Véhicule intéressant sur le plan dynamique. Oui. Moi, j'ai vraiment pas détesté. Mais
agréable à conduire, mais faut pas que tu penses trop à la facture.
Ben, en fait, le 65 500 $ tu retires ensuite un 10 000 $ de crédit gouvernemental applicable.
Oui.
Alors, c'est 8 656 $ plus taxes qui fait 10 000. Et pourquoi? Parce que tu as une batterie de 15,5 kWh, donc juste au-dessus de la limite pour qu'il soit éligible, et tu as une autonomie électrique affichée à 51 km, qui est juste au-dessus des 50 km pour qu'il soit éligible. Alors,
mais ça, c'est un pur hasard.
Oui, c'est totalement un pur hasard. C'est drôle, ça donne bien, tu sais. Non, on a développé un véhicule de conformité pour que ça fonctionne. Et à cause de ça, on a pu grimper les prix, sachant que...
Voilà.
Et évidemment que on vend... Bon, c'est pas comme si on vendait énormément d'unités en ce moment, mais on va vendre plus d'hybrides rechargeables que de versions régulières parce que, rendu là, l'écart de prix entre les deux est pas si grand,
pas si grand que ça.
Considérant que tu ramènes le prix 10 000 $ plus bas, évidemment que de mettre des options dans une version GT, ça fait en sorte que les prix viennent se frôler. Là où j'ai un problème, c'est que c'est pas un Dodge.
Ben, c'est ce qu'on disait il y a deux semaines. Ouais. C'est le Tonale va aider la marque Alfa Romeo à avancer et la redéfinir, mais le Hornet n'aidera pas la marque Dodge à se définir.
Ben non.
Comme tu l'as dit tantôt, véhicule de conformité, c'est pas quelque chose qui va durer ben longtemps.
Ben en fait, c'est un véhicule de transition pour moi chez Dodge, parce que Dodge est en année de transition. C'est-à-dire qu'en 2024, t'as le Durango et t'as le Hornet. Le Durango, c'est un produit vieillissant. On sait que les V8 disparaissent l'année prochaine. On va peut-être le garder un an encore. Et après, Dieu seul sait ce qui va venir le remplacer. Mais on va fort probablement s'inspirer du Grand Cherokee pour créer un équivalent chez Dodge avec cette nouvelle plateforme-là, avec cette nouvelle technologie-là. Et on va arriver aussi avec Charger électrique, Charger avec le moteur Hurricane, et on verra ce qui va arriver, mais le Dodge Hornet, c'est un Alfa Romeo avec une autre calandre, et vous conduisez un véhicule italien de A à Z. là où j'ai un peu mon scepticisme n'est pas que modéré, pardon, c'est que on a déjà fait cet exercice-là il y a une dizaine d'années avec la Dodge Dart, qui était aussi une Alfa Romeo, et ça a été un échec sur toute la ligne. Alors, comment ça se dessine pour le Hornet? Je pense que ça va être un peu moins pire. Mm-hmm. On est dans un autre contexte.
Oui, il est quand même plus dans le cœur du marché que la Dart ne l'était à l'époque.
Oui, effectivement. Ouais. Puis Dodge a toujours eu de la misère avec ses voitures compactes, même si on a eu beaucoup de succès avec la Neon. Le Hornet, c'est un véhicule qui, oui, porte l'emblème Dodge, mais ne perdurera pas extrêmement longtemps, selon moi, alors que chez Alfa Romeo, c'est un vent de fraîcheur. Alors, c'est drôle comment un même produit chez deux marques, marketé et vendu de façon différente, peut avoir un aspect complètement distinct. Ouais. Alors, bravo à Alfa Romeo, et chez Dodge, ben, je dis bonne chance. Alors, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je serai en essai routier la semaine prochaine. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai 70 2.5 turbo. Je vais aussi aller mettre à l'essai le Sprinter 4x4 dans le sud des États-Unis. Alors, on verra comment on s'organise pour l'émission de radio. On va tenter des trucs. Hein? À Cube Télé et à Cube Radio, c'est bien des premières fois ces temps-ci. Alors, on va s'adapter pour la prochaine émission, mais on se retrouve très prochainement.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.